et on a Rachel à côté. Parlons crème. Différents types de crèmes pour différents soins, pour différents résultats. Crème pour traiter les démangeaisons, crème pour les vergetures, crème pour la cellulite, les brûlures, crème solaire, crème pour la peau des bébés, crème pour les peaux sensibles, crème pour les mains, crème pour le visage, pour tonifier, rendre plus ferme, pour donner de la lumière. Ça, on aime ça. Et crème anti-âge. Ça, c'est la mienne. Chaque crème contient des ingrédients spécifiques, de la cortisone, de l'aloise, du phosphore ou une multitude d'ingrédients chimiques ou naturels et souvent impossibles à lire. C'est en laboratoire que les crèmes doivent être testées et approuvées par les dermatologues avant leur mise en marché. Pour vendre ces crèmes, surtout dans le milieu de la cosmétologie, on forme des représentantes et des conseillères afin que celles-ci nous guident dans le choix de notre petit pot de crème. Je les aime beaucoup, vous autres. Eh bien, ce matin, nous allons vous offrir une crème toute spéciale pour des femmes très spéciales. Et c'est vous. C'est une crème très tendre pour les besoins de l'âme. C'est la crème de la parole de Dieu. Elle a été conçue par le plus grand dermatologue, l'Éternel. Elle contient un seul ingrédient, mais combien efficace. C'est Jésus-Christ. Son utilité, car toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. La crème de la parole, c'est une crème anti-ride contre la calomnie, la jalousie, les querelles, les médisances. C'est une crème apaisante dans les situations difficiles. C'est une crème adoucissante pour le cœur, ayant comme résultat la miséricorde, la compassion, la douceur. C'est une crème hydratante pour nos lèvres où émaneront des paroles édifiantes. C'est une crème contre l'anxiété. C'est une crème qui vivifie, rafraîchit et bien plus encore. Cette crème a été conçue, testée et approuvée dans un laboratoire ayant le plus haut niveau d'exigence. C'est le laboratoire de la croix. C'est à la croix que l'ultime purification s'est faite pour nous. Aucune imperfection ou impureté n'est présente dans cette crème qu'est la parole de Dieu. Jean nous dit, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même lumière, nous sommes mutuellement en communion » et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Son prix, bien qu'elle soit d'un prix très élevé, nous n'avons pas à la payer. L'Éternel nous dit, « Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Et même vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter sans argent, oui, sans paiement. C'est le salut offert à tous gratuitement. » Si j'ai les mains sèches et que j'ai la meilleure crème sur le marché, tant que je ne l'utilise pas, elle ne sera d'aucune utilité. Il en est de même de la parole de Dieu. Si je ne la lis pas, ne la médite pas, ne la pratique pas, elle demeure une crème stérile pour l'âme. Spécialement pour vous, mesdames, ce matin, nous avons une représentante de la compagnie Céleste qui nous expliquera les avantages de cette merveilleuse crème pour notre âme. Quelques mots sur notre représentante afin de vous faire découvrir son cœur pour Dieu. J'ai été témoin d'un épisode souffrant de sa vie et avec sa permission, je le mentionne, je vais vous en partager les grandes lignes. Premièrement, je ne fus pas surprise de son sujet, la foi. Et là, Lise, tu vas savoir pourquoi. La période où son mari l'a quittée, jusqu'à la conclusion finale de son divorce, j'ai pu constater la foi de ma sœur Lise. J'ai vu Lise expérimenter les pires sentiments que personne ne voudrait vivre, le rejet et l'abandon. Sentiments dévastateurs. Ses réactions? Chaque soir, elle prenait ses marches et à travers ce temps, elle exprimait à Dieu tout ce qu'elle vivait à l'intérieur d'elle-même. Elle a déversé chacune de ses larmes dans les mains de Dieu, son roc et son refuge. Sa foi l'a gardée dans une proximité avec Dieu. Job dit, « La souffrance te dispose au mal. » Il est souvent, et c'est souvent dans ces moments difficiles, que l'on prend les choses en main, croyant que Dieu est incapable de nous venir en aide. Les déceptions dans nos vies nous amènent parfois à quitter ou à nous éloigner des sentiers de Dieu. Pour Lise, sa foi fut une foi obéissante, stimulée par une vie de prière. Et ça, j'en étais témoin. De tout ça, j'étais témoin d'ailleurs. Une foi qui a persévéré dans les voies de Dieu, malgré l'épreuve, malgré des sentiments très douloureux. Les propos de Lise envers cet homme ne furent jamais disgracieux. Sa foi en Christ a su garder ses lèvres. Dans ce temps d'épreuve, une collègue de travail qui ne savait absolument rien de sa situation lui a dit qu'elle semblait radieuse. Quel témoignage! Malgré toute sa soumission, ses bonnes attitudes, est-ce que son mari est revenu? A-t-elle obtenu le résultat tant espéré? Est-ce que Dieu a répondu au désir profond de son cœur, celui du retour de son mari vers elle? Dieu a répondu non. Quand la foi surpasse un désir légitime non exaucé, mais que le désir de plaire à Dieu est plus grand que son propre désir, ne peut-on pas dire que c'est une foi inébranlable? Malgré des hauts et des bas, le témoignage de Lise est celui d'une femme qui, dans l'épreuve, a combattu pour accomplir la volonté de Dieu. À travers cette expérience, sa foi a dit « Gloire à Dieu, mon roc et mon refuge ». Notre représentante céleste est bien placée pour nous démontrer les bienfaits de la crème de la parole de Dieu pour notre foi, afin qu'elle devienne ferme, inébranlable, obéissante et conforme à la volonté de Dieu. Alors, viens nous crèmer, Lise.
Est-ce que c'est correct? Oui. Il me semble que je m'entends pas mal. Non, c'est normal? OK. OK. Eh bien, je suis vraiment contente d'être avec vous ce matin. Je suis vraiment contente de vous partager un petit peu des choses que le Seigneur m'a mis à cœur. Je suis contente aussi parce que ça va paraître bizarre, mais je me sens comme un pigeon voyageur ce matin. Pas parce que je caquette beaucoup, là. Mais plutôt parce que, vous savez, quand on m'a approché l'année passée pour cette conférence-là, on m'a demandé si j'étais disponible, si j'étais prête à le faire. J'ai dit, je vais y penser. Pour être sérieuse, c'est que ça faisait déjà 2 ans que je me posais des questions sur la foi. Suite à une conférence que j'avais entendue, il y avait une phrase qui m'était restée dans la tête. Puis je m'étais posé des questions, puis je posais des questions au Seigneur. Et puis, j'ai pris des notes, parce que ça s'était donné que c'est souvent la nuit que le Seigneur me parlait. Je prenais des notes. Au bout de 2 ans, j'ai dit, c'est drôle. J'ai dit, quelqu'un voudrait faire une conférence, puis j'ai dit, je pense que j'aurais quelque chose. Je pourrais lui refiler mes notes. Mais c'était pas moi, là, qui était supposée de le donner. Alors, quand j'ai été approchée, pour moi, naturellement, les 3/4 du travail étaient faits, donc c'était facile. Fait que j'ai dit oui, mais j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, je te demande une chose. J'ai dit, ce que toi tu veux dire, parce que là, ce que là, c'est ce que moi je dis. Est-ce que toi, ce que tu veux dire, c'est différent? Enlève ce que tu veux, puis on va garder ce que tu veux. Le message que toi tu veux donner, c'est celui-là que je veux donner. Puis à ma grande surprise, il n'est rien resté de tout ce que j'avais fait pendant les 2 ans. Absolument rien. Puis je vais vous dire, si ça avait été comme ça au début, si j'avais rien eu, ben j'aurais dit non. Fait que le Seigneur m'a pris un petit peu au détour, en tout cas, parce que vraiment, je vous le dis, j'étais vraiment pas safe. Mais je suis contente d'être là ce matin, puis de vous partager vraiment. J'ai eu la paix toute la semaine, puis c'est ce que je disais à une amie. Pas parce que je suis sûre de moi, au contraire, les jambes me shakent peut-être. Peut-être que vous le voyez, j'aimais les grandes tribunes, hein, on voyait pas les jambes. Mais là, je suis vraiment nerveuse, mais par contre, j'ai la conviction que c'est ce que le Seigneur veut vous dire. Et de plus, j'ai prié le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, depuis cet été, j'ai dit, fais donc les invitations toi-même. J'ai dit, je veux pas, j'ai dit que ce soit parce que c'est moi, mais parce que c'est ta parole, parce que toi, tu veux les inviter, parce que tu as quelque chose à dire à celles qui vont être là. Alors, c'est pour ça que j'ai une grande conviction ce matin que si vous êtes ici, c'est parce que le Seigneur, il y a peut-être une phrase pour vous ce matin, mais il y a quelque chose pour vous. Alors, c'est sur cette base-là que je me tiens devant vous. C'est vraiment la parole de Dieu que la parole que le Seigneur a mise sur mon cœur, c'est vraiment cette parole-là que je vous amène ce matin. Alors, la foi, c'est quoi la foi? Ben, c'est mystérieux, la foi, parce que c'est pas palpable. Qu'est-ce qu'il peut dire si votre voisine a la foi? Il y a rien qui peut le dire. Est-ce que la foi, ça se vérifie rien qu'au sein des difficultés? Parce que c'est surtout là que ça se vérifie, la foi. Quand ça va bien, comment est-ce qu'on exprime sa foi? C'est un peu plus difficile à voir. La foi, comment est-ce qu'on fait pour la mesurer? Est-ce que ma foi, elle est grande? Est-ce qu'elle est petite? Est-ce que ça se perd? Est-ce que ça diminue? Est-ce que ça peut vraiment déplacer des montagnes? Voyez-vous, c'est des questions qui sont quand même assez pertinentes, puis ça mérite une pause pour y réfléchir. Puis c'est étonnant de constater que Jésus, il a repris ses propres disciples en matière de foi en leur disant à trois reprises, gens de peu de foi. Deux fois, c'était pendant qu'il était sur l'eau, alors qu'il était sur l'eau. Une fois, Jésus dormait à la poupe. Une autre fois, c'est quand il marchait sur l'eau. Puis une autre fois, parce qu'il avait oublié les pains. Jésus avait dit, méfiez-vous du levain des pharisiens. Puis eux autres avaient eu toutes sortes de pensées que c'était pour le pain. Puis Jésus a dû leur dire, gens de peu de foi, à trois reprises. Pourtant, il avait passé, ça faisait trois ans qu'ils vivaient avec lui. Ils avaient vu des choses extraordinaires qui n'avaient jamais été faites avant. Puis il leur a dit, gens de peu de foi. Alors que pour d'autres, qui n'étaient même pas juifs, qui n'étaient même pas du peuple élu, à ces gens-là, il a dit, quelle foi, quelle grande foi. Entre autres, la syrophénicienne. La femme qui était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, elle s'est approchée tout en tremblant. Jésus l'a découvert et il lui a dit, « Tu as une grande foi. » Mais il y a le centurion romain aussi. Je pense que c'est lui qui me frappe le plus. Parce que le centurion romain, il n'a même pas osé se présenter à Jésus, tellement il se sentait indigne. Et puis, non seulement cela, mais mettez-vous dans sa peau, un centurion romain qui adresse une requête à Jésus, un juif, pour une maladie. Alors que les médecins romains de l'époque, c'était des médecins quand même évolués. Et quand il a envoyé son serviteur adresser sa requête à Jésus, ça a été fait au vu et au su de tous, pas comme Nicodème. Ça n'a pas été fait en cachette le soir. Ça a été fait au vu et au su de tous. Les gens ont entendu que le centurion romain adressait une requête à Jésus. Il aurait pu être très humilié, ce centurion romain. Mais il n'en était absolument rien. Ça me parle. Ça me parle. Jésus a dit de lui, « Nulle part en Israël, je n'ai trouvé une aussi grande foi. » C'est étonnant. C'est même pas à un des siens qui a dit ça. Même pas à un de ses disciples. C'est étonnant. Écoutez, dans le peu de temps qui m'est donné, je ne prétends pas faire le tour de la question, je ne prétends même pas vous révéler une vérité que vous ne sachiez déjà, puis je prétends encore moins vous inciter à m'imiter à cet égard-là. Mais je vous propose de faire une incursion dans le monde de la foi, qui pour ma part est un monde fascinant, dans lequel je n'ai pas fini de réfléchir, vraiment pas. Ce n'est qu'une amorce. Les disciples avaient demandé à Jésus de leur augmenter la foi. Puis Jésus de répondre que s'ils avaient la foi comme un grain de sénévé, ils pourraient déplacer des montagnes. Cette image-là est restée tellement dans l'esprit de bien des gens, croyants ou non-croyants, puis ça a fait en sorte que la foi s'est devenue comme une vertu miracle à rechercher. Parce qu'on se dit que ben, l'idée de faire des choses qui sortent de l'ordinaire, comme de déplacer des montagnes, pour ses propres intérêts, ben, c'est alléchant quelque part. Parce qu'on aimerait ça déplacer des montagnes, mais on va être honnête. Si on pouvait le faire toute seule, sans l'aide de Dieu, ça ferait bien notre affaire. Puis en passant, le grain de sénévé, c'était pas pantoute pour faire la promotion de la moutarde, ça n'a rien à voir, mais c'est entre autres parce que le sénévé, le grain de sénévé, il a la propriété assez particulière de pousser très vite. Pour bien des gens, avoir la foi, là, ça commence avec un désir. Ensuite, c'est de faire une demande à Dieu ou à autre chose. Puis ensuite, c'est espérer que ça va être accordé. C'est un peu comme le jeu Roue de fortune. On tourne la roulette, là, puis on espère que ça va s'arrêter sur le chiffre que nous, on a choisi. Parce que sans ça, bien, on a manqué notre coup. Il y a un petit tour, là, le coude est allé trop loin là dans notre élan. Puis vous savez, paradoxalement, bien, tout le monde a la foi. Même les athées. Même les athées. Les athées, ils croient en eux-mêmes, ils croient en quelque chose. Et là, je viens de penser que j'ai un PowerPoint. où est-ce qu'il est le contrôle? Il était là tout à l'heure. Bon, j'ai un petit problème. Non, il était ici tout à l'heure. Voyons. Excusez-moi, là. Ben, je le vois pas. Il était ici tantôt. Ben, je vois pas bien, là. Mais... Avec trois pitons? Ah, ben, dans ma nervosité, je l'ai promené partout. Excusez-moi. Oui, est-ce que le moniteur ici, il marche avec ça? Lui, il est pas allumé ici, pour moi. Pour moi, il est pas allumé. Il y a un piton en off. Tu me demandes de trouver ça, là?
Moi aussi, j'apprends.
Ah, c'est écrit Anne, là, mais... Ah, c'est des choses qui arrivent, hein? Des choses qui arrivent. Ah, ça regarde bien. Oui, merci beaucoup, Rachel. Oui, OK. Merci. OK. Donc, je disais que tout le monde a la foi. Parfois, ça va être la foi en quelqu'un, une personne, un objet, comme un porte-bonheur. Parfois, ça va être... M'excuse, là, j'essaie de... En des choses invisibles, comme les énergies de l'univers. Il y a quelqu'un qui m'est arrivé avec ça à un moment donné à mon travail. Que ça, j'avais des épreuves dans ma vie parce que j'avais pas des énergies positives. En tout cas, je vous répéterai pas tout ça. C'était assez bizarre, là. Mais des choses invisibles, il y en a que c'est en ça. Pour d'autres, ça va être en une action répétée. Par exemple, bon, ben, OK, je vais m'abstenir de boisson pendant une semaine. Puis comme ça, je suis en train de démontrer que je suis quand même une bonne personne. Hein? Il y en a qui, ça va être une action répétée. Pour d'autres, ça va être en la pensée positive ou ce qu'on appelle la visualisation. Si je pense suffisamment au poste que je vais avoir ou à la maison que je vais obtenir, je vais y arriver. La pensée positive est très, très forte dans le monde actuel. Mais toutes ces choses-là, vous savez, c'est ce qu'on appelle une foi qui est vaine et trompeuse. Mais la foi, la vraie foi, c'est en Dieu, on le sait toutes. Puis la foi, on ne se le cachera pas, c'est un élixir qu'on aimerait tout avoir en stock, pas loin. Puis qu'on aimerait se servir pour écarter les pépins qui sont sur notre route ou pour changer un trait de caractère qui nous fatigue. Par exemple, que ce soit parce que je suis un peu paresseuse le matin ou parce que je suis un petit peu... je sais pas, un petit peu impatiente, là. Des fois, il y en a qui sont impatients. Pas moi, mais il y en a. Il y en a. Puis, ça serait intéressant. Ça serait intéressant de pouvoir utiliser cet élixir-là selon notre agenda à nous. Puis nous, les croyants, on n'est pas si différents que ça. On apprécie le salut. On apprécie le fait de savoir que notre éternité, elle est réglée pour le mieux. Puis on est même sincèrement reconnaissant à Jésus de nous l'avoir acquis. Mais si on est honnête, on aimerait bien ne pas attendre l'intervention de Dieu parce que ça vient rarement au moment où on voudrait, puis ça vient rarement sous la forme qu'on voudrait. Aussi, la foi, ça n'exclut pas la douleur, vous savez. Avoir la foi, ça ne veut pas dire que la douleur d'un cœur brisé, ça disparaît. C'est pas ça, la foi. On vit quand même sur terre, puis on est affecté autant que les non-croyants autour de nous par diverses choses. Il y a des événements qui nous touchent de près, que ce soit parce qu'un de nos proches est frappé par la maladie ou parce qu'on voit un des siens gaspiller ses journées dans des choses vaines, que ce soit dans des bars, un des enfants, par exemple, qui se tient dans les bars, qui a pris une voie pour sa vie qui n'est pas ce qu'on aurait désiré. Que ce soit les jeux vidéo sur les cellulaires, que ce soit les sites Internet non recommandables, ou que ce soit même l'Internet tout court. Vous savez qu'il y en a qui passent des journées sur l'Internet. C'est des bonnes choses. C'est des bonnes choses qu'ils vont regarder, mais ils sont quand même toute la journée sur Internet, et pas une heure, et même pas un 15 minutes dans la parole. Quoi qu'il en soit, il y a des choses, des personnes qui vont vous briser le cœur, volontairement ou non, puis qui vont faire en sorte que vous allez verser des larmes. La foi, ce n'est pas une garantie qu'on est au-dessus de la souffrance. C'est plutôt une garantie qu'on est au bon endroit, c'est-à-dire au pied du trône de la grâce. La foi, voyez-vous, c'est nécessaire parfois pour attendre, mais parfois pour agir. Compter sur autre chose que sur Dieu, c'est s'exposer aux morsures de l'ennemi, parce que lui ne vous laissera aucune chance pendant votre traversée sur la terre. Avant d'aborder le vif du sujet, j'aimerais, parce que là, je n'ai pas commencé encore, là. Je suis encore dans mon introduction, je ne veux pas vous décourager, là. Mais tout d'abord, j'aimerais ça vous faire remarquer une chose. À propos de la foi, dans la parole de Dieu, j'ai remarqué que souvent, très, très souvent, quand il est question de foi, pas longtemps après, il est question de parole de Dieu. Vraiment pas longtemps après. Je vous donne deux versets qui mentionnent ça. Le verset dans Éphésiens 6, 16, si vous voulez le prendre. « En toutes circonstances, » je vous le dis, c'est surtout dans la deuxième partie que je vais vous demander de me suivre dans vos Bibles. Ici, je vous lis Éphésiens 6, 16. « En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. » Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Il y a un frère qui a dit dans une prédication, il n'y a pas très très longtemps, que les armes de Dieu, ça vient avec la nouvelle vie. Aussitôt qu'on est sauvé, on est invité à passer au magasin d'armes. Puis le pas les prendre, c'est courir à sa perte de façon assurée. La maturité spirituelle, ça dépend de la manière dont on les manie. Je termine ici l'emprunt des propos de mon frère. Dans le verset d'Éphésiens, on remarque bien que la foi, c'est une arme défensive. La parole de Dieu, c'est une arme offensive. C'est-à-dire que la parole de Dieu, elle va vous permettre de combattre l'ennemi et peut-être même de le faire fuir. Mais la foi, elle, c'est un bouclier. Le bouclier, ça n'empêche pas l'ennemi de tirer, puis il peut même tirer autant de flèches qu'il désire. Puis il peut faire durer son plaisir aussi longtemps qu'il veut. La foi, c'est seulement ce qui va empêcher l'ennemi de percer un organe vital. Mais encore faut-il qu'il soit placé au bon endroit. Si je place mon bouclier là, mon cœur est exposé. Puis en passant, les flèches enflammées, là, c'est essentiellement des mensonges qui visent à nous faire douter de Dieu. Pareil comme au Jardin d'Éden. Au Jardin d'Éden. Ça a été une stratégie de Satan qui a tellement bien marché au début, puis pendant les millénaires, qui emploie encore la même tactique aujourd'hui. puis elle marche encore. Elle marche encore. L'autre verset que je veux vous citer, c'est Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend. J'aimerais vous poser la question. Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous écoutez? Les médias sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, je ne les connais pas. Je ne suis pas habituée dans ces choses-là, mais ça peut être la télévision, religieusement, à chaque soir. Mais vous savez, autant nos oreilles que nos yeux, c'est ça qui va nourrir notre âme ou qui va la faire stagner. C'est qu'est-ce qu'on laisse entrer dans notre âme? La suite du verset dit « Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu ». Jésus est la parole. Mais c'est qui Jésus pour vous? Si vous rencontriez un non-croyant et qu'on vous demandait « C'est qui Jésus pour vous? » Est-ce que vous diriez que c'est quelqu'un qui est sans compassion, qui est très sévère, qui ne va pas vous donner aucune chance? Ou, à l'opposé, vous allez dire que c'est quelqu'un qui comprend tellement bien nos luttes, qui est prêt à tout et vraiment tout pardonner, puis qui ne fait aucun cas des petits péchés mignons qu'on entretient. Puis les deux points de vue sont erronés. Et ici, j'aimerais vous citer ce que j'ai lu dans un livre, et vraiment, j'ai trouvé ça tellement actuel, j'aimerais vous en faire la lecture. Très peu de chrétiens de nos jours voient Dieu comme détestant au plus haut point notre péché. Il est maintenant devenu un peu plus flexible, plus tolérant, souhaitant toujours que nous respections au moins quelques-unes de ses exigences, mais nous manifestant une certaine grâce lorsque nous ne le faisons pas. Dans l'Épître aux Romains, lorsque Paul nous parle de Dieu, l'image n'est pas celle d'une personne gentille. Il n'est pas décrit comme un père aimant et affectueux qui chérit ses enfants et s'assure qu'ils ne manquent de rien et puissent se payer du bon temps. Dans la culture chrétienne actuelle, notre compréhension de la sainteté de Dieu a été diluée en y introduisant le concept de la grâce de manière un peu précipitée. Nous parlons maintenant de la grâce divine en employant un langage qui altère notre perception du Dieu saint en quelqu'un de strict mais compréhensif. Dieu veut que nous obéissions à ses commandements, disons-nous, mais si nous ne le faisons pas, et personne ne le peut de façon parfaite, il est vraiment très compréhensif. C'est là notre compréhension de la grâce. C'est ce que Dietrich Bonhoeffer, qui était un évangéliste allemand qui a été tué sous Hitler, c'est ce que Dietrich Bonhoeffer appelle la grâce à bon marché, ou ce qu'on appelle en anglais « cheap grace ». Une telle conception résulte du fait que nous parlons de la grâce sans avoir rencontré le Dieu saint d'une manière qui nous porte à trembler devant lui. C'est notre première erreur. Nous réduisons le Dieu très saint et dont le courroux est ardent à un Dieu pépère dont les normes sont plus ou moins strictes. Et c'est au nom de la grâce que nous agissons ainsi. C'est pris du livre de Larry Crabb, « Quand vos rêves volent en éclats ». Vous voyez, la foi voit que Dieu est saint, puis on ne se moque pas de la sainteté de Dieu. C'est à cause de la sainteté que Dieu a dû lever ses yeux sur son Fils sans pouvoir l'exempter de la croix. Alors, attention de faire de la grâce un prétexte pour banaliser la sainteté de Dieu et la croix par conséquent. Dans le processus d'exercice de la foi, vous savez, on est confronté à des défis. Un de ceux-ci, c'est nos attentes. Quand malgré notre foi en Dieu, la situation ne change pas, quand on a l'impression que Dieu n'entend pas nos prières, nos cris vers lui, parce que comme de raison, s'il les entendait, il ferait quelque chose. Par exemple, quand ça fait des années que vous priez pour le salut d'un de vos enfants, c'est une demande qui est quand même légitime. Et plus le temps passe, plus ça érode la foi, on dirait. On voudrait que la foi, ça produise une action dans ce siècle-ci, mais pas dans 10 ans. Sinon, foi en danger. L'autre défi de la foi, c'est les émotions. Et puis ça, c'est un défi de taille, vous savez, dans l'exercice de la foi. Quand je ne sens pas qu'il est là, ou qui fait cas de moi, quand je sens pas qu'il m'aime. Puis vous savez, nous les femmes, on est des boules d'émotions. Puis en passant, là, bien c'est comme ça que Dieu nous a faites. Il sait qu'on est comme ça. Il n'est pas dépassé, pas comme les maris. Tu sais, Dieu, il aime ses filles. Il nous a faites comme ça. Mais vous savez, même si la parole de Dieu, elle affirme que Dieu m'aime, puis que moi, je suis la prunelle de son œil, pour pouvoir croire à cet amour-là, il faut que je le sente. Nos émotions et nos attentes deviennent alors les juges de la parole de Dieu. Autrement dit, si la foi ne m'obtient pas ce à quoi je m'attends de la part de Dieu, et si mes émotions interprètent les événements de façon différente de ce que la parole affirme, ce n'est pas mes attentes et mes émotions qui mentent, c'est la parole de Dieu. C'est notre réaction. C'est grave. Puis vous savez, il y en a qui ont abandonné la foi parce qu'ils ont cessé de croire que Dieu s'intéressait à eux ou parce qu'ils n'ont pas été satisfaits de ses interventions ou de son silence. Parce qu'il y a quand même le pouvoir de tout changer. Vous savez, le verset dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et non, la foi vient de ce qu'on ressent et ce qu'on ressent vient de nos tripes. C'est différent. C'est différent. Ceci étant dit, l'introduction est terminée. Quand on parle de la foi, je pense que c'est à peu près inévitable de parler du chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, ou à tout le moins d'en mentionner certains versets. Pourquoi? Parce que c'est dans ce chapitre-là qu'on trouve les héros de la foi. C'est le titre qui est souvent donné à ce chapitre-là dans diverses versions de la Bible. Puis c'est un chapitre qui donne beaucoup d'indices quant aux moyens d'exercer la foi puis de la faire grandir. C'est des gens comme vous et moi qui ont démontré la foi dans des circonstances particulières puis qui ont connu des résultats pour le moins étonnants. Il y a une chose par contre, que ce chapitre-là se trouve dans l'Épître aux Hébreux, c'est surprenant à première vue. Je ne sais pas pour vous, mais le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, les héros de la foi, c'est un chapitre qui semble facile à lire. Il est à notre niveau, à nous. Tu sais, on va trouver des perles là-dedans. Mais la presque totalité des chapitres précédents, ça comporte beaucoup de références au sacerdoce lévitique. Puis ça, c'est un concept qui est tellement pas commun à nous qui vivons en Occident, puis au 21e siècle en plus. On dirait que ça nous rejoint pas. Les 10 premiers chapitres nous rejoignent pas. Puis au mieux, on va prendre quelques versets ici et là, puis on va s'en satisfaire. Puis d'ailleurs, je pense que j'ai jamais entendu personne dire que l'Épître aux Hébreux, c'était son livre préféré. Je pense pas. Puis pourtant, l'Épître aux Hébreux est tellement remplie de trésors, là. Mais moi, je vous propose une incursion dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Puis vous allez voir que le chapitre 11, en fait, c'est seulement un tremplin au chapitre 12. Vous allez voir. Le contexte d'Hébreux 11. L'auteur de la lettre, il avait un but bien précis dans sa tête quand il a écrit cet épître-là. Il développait sa pensée au fur et à mesure des chapitres. Chaque idée menait à la suivante, qui, elle, menait à la suivante, qui, elle, menait... Bon, je pourrais continuer jusqu'à midi comme ça. Puis c'est un peu comme les Actes des apôtres, sauf que les Actes des apôtres, c'est un livre historique. Mais le principe est le même, OK? Pour comprendre le développement de l'Église, il faut commencer au début du livre des Actes pour bien saisir toute l'évolution. Parce que si vous lisez le chapitre 27 avant d'avoir lu les autres chapitres, vous allez peut-être conclure que Paul est en prison parce qu'il méritait, peut-être parce qu'il était un meurtrier. Donc, c'est nécessaire d'avoir les chapitres avant. Cela étant dit, vous allez comprendre que pour bien saisir le chapitre 11 d'Hébreux, il faut aller voir un petit peu ce qui a été écrit avant. Pourquoi il parle de la foi tout d'un coup? Parce que, comme je vous dis, les 10 premiers chapitres, on dirait que c'est déconnecté. il parle d'autre chose. Puis tout d'un coup, il arrive avec l'épître 11. Ah! Tout d'un coup, ça nous rejoint. Le chapitre 12, ça nous rejoint aussi. Mais qu'est-ce que ça a à voir tout ça ensemble? Je vous trace un portrait rapide de ce qui se passait en Israël à ce moment-là. Les croyants juifs de cette époque-là, on est à peu près en 60-64, les croyants juifs étaient démoralisés, ils étaient découragés. C'était difficile de vivre le christianisme parce que c'était radical comme changement. Le christianisme mettait l'accent sur une nouvelle liberté spirituelle, puis il fallait la vivre par la foi. Il fallait donc mettre de côté des centaines d'années de tradition. Puis en faisant ça, bien, ça provoquait la colère de l'establishment religieux juif de l'époque. Puis entre vous et moi, là, le contexte, quand on y pense, c'est pas si différent que ça qu'au Québec. Prenez les années 50. Je ne vous tracerai pas le portrait, mais en tout cas, si vous avez des cheveux blancs comme moi, vous savez de quoi je parle. Sinon, ben, vous viendrez me voir après, ça va me faire plaisir. OK, pour comprendre l'auteur, où il veut nous amener, je vais vous présenter une carte routière très, très, très sommaire de l'Épître aux Hébreux, des 10 premiers chapitres, parce que j'ai hâte d'arriver au chapitre 11. Les chapitres 1 à 9, là-dedans, ce que l'auteur établit, c'est que Jésus il est vraiment supérieur à tout ce qui a existé. Il établit que Jésus est supérieur aux anges, il est supérieur à Moïse, il est supérieur aux grands sacrificateurs. Puis il démontre que Jésus, c'est le nouveau moyen de s'approcher de Dieu par opposition aux exigences lévitiques. Et là, le privilège immense de pouvoir s'approcher de Dieu, c'est désormais accessible à n'importe qui, sous certaines conditions. Toutefois, c'est des conditions de cœur, c'est plus des œuvres. Ensuite, on arrive au chapitre 10, les versets 1 à 18. Là, il va expliquer pourquoi l'obéissance à la loi, fais pas ci, fais pas ça, ça mène nulle part. Puis il va expliquer comment est-ce que l'œuvre de Jésus, ça change la façon de s'approcher de Dieu. À ce moment-là de l'histoire, il y en a plusieurs convertis qui étaient prêts à tourner les talons puis à revenir à un culte auquel ils étaient habitués, qui était presque confortable en fait. C'était un culte qui était basé sur les œuvres et les efforts moraux. Un peu comme au Québec, ce qu'on a vécu il y a quand même quelques années, si vous vous souvenez, ou si vos parents vous en ont parlé. Ensuite, on a le chapitre 10, le verset 19, jusqu'au chapitre 11, le verset 1. Là, c'est l'entrée en scène de la foi. Et là, ce qu'on dit, c'est que le lieu très saint est désormais accessible. Dans Hébreux 10, au verset 19, ça dit « Ainsi donc ». Et là, « Ainsi donc », c'est à cause de tout ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire la supériorité de Jésus, l'abolition de la loi, tout ça. « Ainsi donc, mes frères, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint ». Grâce au sang du sacrifice de Jésus. Jamais avant, il avait été possible pour un simple juif d'entrer dans le lieu très saint. Il y avait seulement le souverain sacrificateur qui pouvait le faire, et encore là, une seule fois par année. Et encore là, c'était tellement délicat qu'on mettait un cordon autour de la cheville du souverain sacrificateur, parce que s'il arrivait dans le lieu très saint et que Dieu agréait pas le souverain sacrificateur et qu'il mourait là, on pouvait ainsi tirer sur sa cheville et le retirer et ne pas nous pénétrer dans le lieu très saint. Alors, vous comprenez que là, ce qu'on vient de dire, l'entrée en scène de la foi, là, que la pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint, c'est un concept qui est complètement nouveau. On n'était pas habitué à ça. Là, il y avait les yeux vraiment grands. C'est un changement de cap total. Par après, il leur explique au verset 22 que la condition pour s'approcher de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur droit, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience. Avant, pour s'approcher de Dieu, il fallait faire des choses très, très pointues pour pas déclencher la colère de Dieu. Parce qu'oublions pas, Dieu, c'est un Dieu trois fois saint. Et encore aujourd'hui, il est trois fois saint. Mais on n'abordait pas Dieu comme on aborde un collègue de travail, comme un chum ou une chum. Un cœur droit, purifié, c'était les conditions nécessaires pour s'approcher de Dieu. Puis là, ça ne dépendait plus du souverain sacrificateur, mais ça appartenait désormais à chacun de s'examiner. Puis il faut bien comprendre qu'autrefois, le cœur n'était pas sollicité pour le culte. On n'était pas habitué à sonder son propre cœur, surtout si c'était face à Dieu. L'inconfort, il était énorme, énorme. Sonder son cœur, vous savez, c'est une tâche qui est inconfortable. Parce qu'il faut bien le dire, ça révèle des choses qui ne sont pas toujours belles. Au verset 23, il nous dit qu'on a des droits acquis, restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, car celui qui nous a fait les promesses est digne. L'espérance dont il est question ici dans ce verset-là et à laquelle on est exhorté à rester attaché, ce n'est pas autre chose que le salut. C'est ce dont il est question dans les chapitres précédents, puis comment il a été acquis. C'est de ça dont il est question dans les 10 premiers chapitres. Puis le salut, vous savez, ça vient en combo. C'est-à-dire que c'est avec un héritage aussi. L'héritage de vivre avec lui dans son ciel pour l'éternité. Vous savez, tout ça, là, en termes de relation de Dieu avec l'homme, là, c'était une percée exceptionnelle. C'était une avancée exceptionnelle. Je ne sais pas si vous pouvez vous mettre dans la tête de ces gens-là, mais c'était vraiment quelque chose de très, très nouveau là, qui venait d'être dit. Ensuite, on arrive au chapitre 10, les versets 32 à 39. Et là, l'auteur va récapituler. Avant d'aborder le thème de la foi, il veut s'assurer que tout est bien compris. Fait qu'il va leur rappeler les débuts de leur vie chrétienne, puis de toute vie chrétienne d'ailleurs. Première chose, il va dire, vous avez été éclairés par Dieu. Autrement dit, vous avez été choisis parmi tous. Et là, ça s'applique à chacun d'entre nous, là. Ensuite, il va dire, vous avez enduré les souffrances d'un rude combat. Vous étiez prêts à souffrir. Vous avez réalisé, quand vous avez accepté Jésus, quand vous avez cru en son sacrifice, vous avez réalisé que toute souffrance, quelle qu'elle soit, elle était moins grande que le salut. Ensuite, vous avez accepté d'être dépouillé de vos biens. Là, il fait référence aux actes des apôtres. Ils ne se concentraient pas, à ce moment-là, les nouveaux croyants, sur ce qu'ils avaient perdu, mais sur les choses éternelles qu'ils venaient de gagner. Ensuite, au verset 34, vous vous saviez en possession de richesses plus précieuses et éternelles. Vous avez compris quelle richesse ça représente, le salut, puis surtout le fait qu'on ne peut pas vous l'enlever. Il n'y a pas personne qui peut vous dépouiller de votre salut. Fait qu'il continue. Au verset 35, à cause de ça, abandonnez pas. Abandonnez pas votre assurance. Il y a une grande récompense qui y appartient. Deuxièmement, il vous faut de la persévérance. Encore un peu de temps, juste un tout petit peu de temps. Puis celui qui doit venir, il va venir. Mais il ne faut pas que vous retourniez en arrière. Il ne faut surtout pas que vous retourniez en arrière. Puis en fin de compte, ce qu'il va leur dire, c'est par la foi maintenant qu'il faut vivre. Après avoir mis votre foi en Jésus-Christ, il faut maintenant vivre par elle. Puis continuellement, pendant votre vie sur la terre, il va falloir poser cette action-là de choisir la foi jusqu'à votre arrivée au ciel. Fait que le choix devant lequel les croyants se trouvaient à cette époque-là, c'était bien simple. Il faisait face à un choix. C'était soit une tradition ou une relation. C'était soit la loi ou c'était Jésus. C'était soit les œuvres ou c'était la foi. Il y avait un choix à faire. Puis à partir de là, l'auteur va leur expliquer comment vivre par la foi. Puis c'est quoi vivre par la foi. Puis vous savez quoi? L'auteur, il va se servir de leurs ancêtres. Abraham, Moïse, Isaac, vous savez, ceux dont ils se targuaient tellement de connaître, puis que c'était leurs ancêtres, leurs pères, bien, il va se servir d'eux autres pour leur montrer c'est quoi la foi, puis comment eux autres, ils l'ont exercée. Mais tout d'abord, il veut juste s'assurer que tout le monde comprend le concept de la foi. Il dit au chapitre 11, verset 1, c'est une façon de posséder ce qu'on espère, un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. La foi voulait dire que maintenant, notre fin finale, paraît drôle à dire, mais la fin finale, elle est connue. C'est-à-dire, c'est le ciel. On vit en fonction de cette destination-là. Il y a un héritage qui nous est gardé là, puis c'est vers ça qu'on s'en va. Mais entre le salut et le ciel, il y a notre vie sur la terre. Vous savez, avant le péché, la foi n'existait pas. Au ciel, la foi n'existera plus. Mais entre les deux, la foi, c'est là qu'elle prend toute son importance. Et c'est là qu'il faut l'exercer. Et vous savez, le chemin entre les deux, c'est une route chaotique. On n'est pas certain de ce qui se trouve devant. Mais on sait une chose. On ne sait pas ce que nous réserve l'avenir, mais on connaît celui qui tient l'avenir dans ses mains. C'est parce qu'ils ont eu cette foi, verset 2, que les hommes des temps passés ont été approuvés de Dieu. Cette foi, dont l'auteur vient de faire le portrait, c'est rien d'autre que la foi en Dieu. C'est une foi qui ne regarde pas en arrière, au bien terrestre qu'elle avait, au genre de vie qu'elle avait avant. C'est une foi qui persévère. Puis c'est maintenant cette foi-là qui va être démontrée dans la pratique, la foi en Dieu que seul Jésus suscite, la seule qui honore Dieu. Et dans la deuxième partie, c'est des exemples concrets qu'on va voir et comment de façon pratique ça s'applique à nous aujourd'hui, en 2017, d'où le titre de mon PowerPoint, « Il était une fois en 2017 ». Merci. Un, deux. Je n'ai pas compté plus que ça, une chance. Je suis toujours embêtée quand on demande pour les gens de se lever. Je me dis tout le temps à moi-même, je suis de la même grandeur assis ou debout. Bon. OK. On rentre maintenant dans le vif du sujet. Est-ce que c'est trop fort? Non. Dans le vif du sujet, le chapitre 11, si vous voulez prendre le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux pour suivre avec moi. En passant, j'ai pris la version sommaire parce que je trouvais qu'il y a des choses qui étaient dites différemment, puis j'aime la version sommaire. Alors, Hébreux au chapitre 11. On est toutes là? Le verset 3. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. Excusez-moi, là, je vais placer ma montre. Bon. OK. La foi, dans ce cas-ci, ça permet de comprendre dans le sens de reconnaître, d'admettre. Pas de comprendre le processus, mais de comprendre dans le sens d'admettre. L'univers a été créé par Dieu, on s'entend là-dessus. Comment? Je ne le sais pas. Mais je sais que c'est Dieu qui l'a fait parce que la Bible dit. Point. Puis même si Dieu me révélait tout le processus, là, je pense même pas que je serais capable de comprendre parce qu'il s'agit d'une dimension divine. Fait que même si on était des cerveaux évolués, là, puis je doute pas qu'il y en a ici, là, mais même si on était des cerveaux super évolués, je pense pas qu'on arriverait à saisir ce qui est du divin. La science, elle essaye bien de le faire, là, mais souvent, elle va conclure avec des absurdités. Vous savez, l'orgueil de la science, elle l'amène à penser qu'elle peut aller au-delà des limites imposées par Dieu. Mais la foi, ça accepte de ne pas pouvoir tout expliquer des actions posées par Dieu. Par exemple, en médecine, les guérisons miracles, n'essayez pas de chercher une explication, il n'y en a pas. Autrement dit, la foi, c'est un concept qui est trop simple pour être admise par la science. Puis si la science avait la foi, là, ben on perdrait bien moins de temps. Ça, c'est une réalité. Une autre chose que ce verset-là me dit, c'est que la foi, là, ça nécessite pas une capacité intellectuelle, mais une capacité de cœur. C'est une capacité qui est à notre portée. C'est pour ça que même un enfant peut avoir la foi. C'est comme de l'eau dans un verre. Ce qui désaltère, c'est l'eau. c'est pas le contenant. Peu importe la grosseur du contenant, c'est toujours l'eau qui désaltère. Puis peu importe le contenant, l'eau reste de l'eau. C'est la même chose. Avant d'aborder à proprement dit les personnages qui sont cités dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, je veux rien que vous faire remarquer une chose. C'est que tout au long des récits qu'on va suivre, il y a une chose qui revient immanquablement. Et je n'aurai pas le temps de vous pointer à chaque fois tout ce qui s'est passé pour vous cerner cette chose-là, mais je vous demande de garder ça en tête. C'est que immanquablement, avant l'action posée, il y a toujours, toujours eu un tête-à-tête avec Dieu. Immanquablement. Vous allez le voir. Des fois, je vais vous le noter, et d'autres fois, vous allez peut-être vous en rappeler par vous-même, mais je n'aurai pas le temps d'y revenir là-dessus. On s'en va au verset 4. Excusez, j'essaie de... OK, on y arrive. Verset 4. Par la foi, Abel a offert à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Grâce à elle, il a été déclaré juste par Dieu qui a témoigné lui-même qu'il approuvait ses dons. Et grâce à elle, Abel parle encore bien que mort. Vous savez, c'est quelque chose qui est un petit peu étonnant. Pourquoi il a agréé le sacrifice d'Abel, mais pas celui de Caïn? Vous savez, c'est pas écrit, mais Dieu avait probablement donné ses instructions sur ce qui était requis et agréé pour plaire à Dieu. Puis c'était pas autre chose que le sang pour couvrir le péché qui avait fait son entrée en scène puis qui faisait affront à Dieu. Caïn savait sûrement ce que Dieu avait ordonné, sûrement. Peut-être que Caïn, c'était un homme plus rose, puis le sang tuait quelque chose, peut-être que ça le répugnait, peut-être, je ne sais pas. Ici, je fais des suppositions. Mais quoi qu'il en soit, Dieu avait sûrement donné des instructions précises et Caïn a choisi sa propre façon de s'approcher de Dieu, de plaire à Dieu. Vous savez, s'approcher de Dieu à sa façon, c'est ce que bien des gens essaient de faire. Puis pourtant, ça n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. Je m'excuse, Rachel. Est-ce que ça marche bien? Parce que là, je muse le pouce. Il n'y a pas de pause là-dessus? Ah, OK. Merci. OK. Vous savez, l'être humain a toujours cherché à amener Dieu à suivre ses propres instructions plutôt que de suivre les instructions de Dieu. C'est un peu comme la science. La foi, ici, c'est se conformer aux instructions de la parole de Dieu, même si, à notre avis, notre façon de faire serait plus appropriée. Versets 5 et 6. Par la foi, Enoch a été enlevé auprès de Dieu pour échapper à la mort, et on ne le trouva plus, parce que Dieu l'avait enlevé. En effet, avant de nous parler de son enlèvement, l'Écriture lui rend ce témoignage. Il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qu'il cherche. Il est écrit dans Genèse, au chapitre 5, au verset 24, que Enoch marchait avec Dieu, ou, dans la version sommaire, vécu en communion avec Dieu. Et puis, notre verset indique qu'il était agréable à Dieu. Qu'est-ce qu'il a bien pu faire pour être aussi agréable à Dieu? La foi. La foi nous rend agréable à Dieu. La foi. Des fois, on cherche des façons de se rendre agréable à Dieu. La foi. Le verset est tellement clair là-dessus. Pourquoi? Parce que la foi, elle cherche la face de Dieu, la main de Dieu dans tout ce qui se place sur notre route. Puis elle croit que Dieu a un but qui remet aucunement en question son amour pour nous. Par exemple, quand quelqu'un ou quelque chose de très cher à notre cœur nous est arraché, est-ce qu'on cherche Dieu dans ces moments-là ou on cherche à brandir le poing comme ça? La foi, c'est le chercher lui, lui seul, en toute situation, puis c'est avoir un vrai tête-à-tête avec lui en marchant. C'est écrit que Enoch marcha avec Dieu tous les jours de sa vie. Quand vous marchez avec quelqu'un tous les jours, là, vous n'en restez pas à parler de la pluie puis du beau temps. Marcher avec lui, c'est lui parler de tout ce qui se trouve dans votre cœur, dans votre tête. Pareil comme avec une amie. De toute façon, vous savez, il la connaît, votre histoire. Puis le fait de lui parler, là, bien, c'est à vous, premièrement, que ça va faire du bien. Mais n'ayez pas peur de lui dire ce que vous vivez, ce que vous pensez. Il le sait déjà, de toute façon. Osez lui dire ce qui se trouve dans votre cœur, que ce soit beau ou non. Osez lui dire vos combats, même les moins exprimables. Si quelqu'un peut vous venir en aide, c'est bien lui. Pour ma part, je considère que quand je permets de dire des choses pas jolies qui se trouvent dans mon cœur, je les démasque. Dieu peut m'aider à les gérer, mais si je les laisse non dites, et là je parle non dites à Dieu, bien, elles ont tout le loisir de proliférer parce que, en quelque sorte, je les accepte. Verset 7. Par la foi, Noé construit un bateau pour sauver sa famille. Il avait pris au sérieux la révélation qu'il avait reçue au sujet d'événements qu'on ne voyait pas encore. En agissant ainsi, il a condamné le monde. Et Dieu lui a accordé d'être juste, d'être déclaré juste en raison de sa foi. Bon, Noé vivait dans une région désertique. Comment prendre au sérieux l'instruction de construire un bateau de croisière avec de telles dimensions dans une région désertique? C'était certain que c'était pour y attirer des moqueries, certain. Puis Noé, là, il aurait pu reprendre avec raison la question que le serpent a posée à Ève. Est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Puis avez-vous remarqué que ça arrive souvent que ceux qui marchent avec Dieu, ils reçoivent des instructions insensées. Prenez la mer Rouge, la Pâque, Jéricho. Hey, on va en parler tard, Jéricho. Mais ça, c'est des instructions qui nous font douter de notre oui. Dieu a-t-il vraiment dit ça? On dirait qu'on en revient toujours à ça, à cette fameuse question-là. Quand elle va se pointer dans votre tête, là, soyez sous vos gardes. Soyez sous vos gardes. Mais c'est écrit que Noé, il a choisi de prendre au sérieux la révélation au sujet d'événements qu'on ne voyait pas encore. Prendre la parole au sérieux, c'est comme Noé, accepter les moqueries des gens qui nous entourent. Les moqueries que nous vaut la mise en pratique de la parole de Dieu. Il jugea que la parole de Dieu était non négociable, puis que c'était l'autorité suprême, puis que Dieu n'avait pas parlé pour le fun. Est-ce que la seule pensée des moqueries qu'on peut attirer sur nous, est-ce que ça suffit à nous paralyser? Genèse au verset 6, au chapitre 6, au verset 9, dans la version second 21, ça dit que Noé était un homme juste et intègre dans sa génération, au milieu de ses contemporains. Un homme qui marchait avec Dieu. Tiens donc, un autre qui marchait avec Dieu. Puis juste en passant, comment est-ce que Dieu aurait pu valider avec les gens de son époque si ce qu'il avait entendu, c'était bien ce que Dieu avait dit? À ce moment-là, il semblerait qu'il n'y a personne qui faisait aucun cas de Dieu. C'est pour ça qu'il y a un Noé qui a été sauvé. La seule option qui lui restait à Noé, c'était la foi. C'était la seule. Versets 8 à 10. Excusez. Par la foi, Abraham a obéi à l'appel de Dieu qui lui ordonnait de partir pour un pays qu'il devait recevoir plus tard en héritage. Il est parti sans savoir où il allait. Bon, l'itinéraire du voyage que Dieu a présenté à Abraham, il n'était pas bien élaboré. On s'entend là-dessus. Une agence de voyage qui fonctionnerait comme ça, je ferais bien rapidement banqueroute. Mais l'agence de voyage de Dieu, c'est comme ça qu'elle est conçue. La seule chose qui est garantie, c'est un accompagnateur. C'est écrit dans Matthieu 28, 20, « Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est une promesse, ça. C'est ça, l'agence de voyage de Dieu. Puis lui aussi, vous savez, il aurait pu la poser la fameuse question. Dieu a-t-il réellement dit? Bien, il n'y en est rien. Dieu, il ordonne de partir, il part. Pareil comme avec Isaac, hein? Il est parti de bon matin. C'est ça que c'est écrit avec Isaac. Il est parti de bon matin. De bon matin, ça veut dire... Il n'a pas tatawiné là, comme nous autres là, quand c'est le temps d'aller travailler. Non. Il est parti. C'était le temps d'y aller, il est parti. Mais vous savez, son obéissance, c'était la réaction naturelle à la connaissance qu'il avait de Dieu. Abraham, il avait appris à reconnaître la voix de Dieu. Et je vous conte une petite anecdote ici. Un jour, je suis allée jouer au golf avec une amie. Puis, elle avait vraiment tiré sa balle loin, mais droite en plus, vraiment droite. Pour ceux qui ne jouent pas au golf, je vais vous avouer qu'il y a une certaine tendance chez les golfeurs, c'est que la balle va loin, mais après ça, elle vire dans les bois. Les hommes font ça, pas les femmes, mais surtout les hommes. Je taquine les hommes. Mais là, elle avait lancé sa balle, elle, vraiment droite, puis elle avait été loin. Elle avait été vraiment loin. Fait qu'on s'avance pour aller chercher sa balle. On s'avance. Puis on avance encore, mais on ne la trouvait pas. Pourtant, les deux, on avait vu qu'elle avait été très, très droite. Mais on ne la voyait pas. Juste un petit peu plus loin, il y avait un monticule. Mais pour nous, c'était impossible que ça ait été si loin que ça, parce qu'elle connaissait sa force, disait-elle. On a donc... Elle a cherché, elle continue. Elle a dit, non, ça ne se peut pas être ici. Non. Je vais quand même monter sur le monticule. Je suis montée sur le monticule, et là, du haut du monticule, je voyais 360 degrés. Je dis, « Hey! Elle a ta balle! » Elle me dit, « Non! Ça se peut pas! Pas si loin que ça! » Je te le dis, elle a! Je la vois! Non! Ça se peut pas! Je dis, « Regarde! Je te demande pas de croire ce que tu vois, je te demande d'écouter ma voix! » T'as compris, hein, Luce? Bon. Mais tout ça pour dire, c'est ça. La foi, c'est pas ce qu'on voit. C'est la voix de Dieu. Et j'aimerais, à ce point-ci, vous suggérer quelque chose de pratique dans vos vies. La mise en pratique de la parole de Dieu. J'aimerais ça vous suggérer... Je prends pour acquis que vous lisez votre Bible le matin ou le soir, que vous lisez votre Bible, point. Dans le cours de votre lecture, je vous suggère, prenez un verset, un seul, et demandez à Dieu de vous aider à le mettre en pratique cette journée-là. Vous allez voir, tout au long de la journée, vous allez avoir ça dans la tête. Ça va revenir constamment. Pas de façon incessante que vous allez l'avoir dans la tête, mais ça va vous revenir dans la journée. Quand tu arrives le soir, faites un débriefing avec Dieu pour lui dire comment ça a été. Ou mieux que ça encore, faites-le à deux. Que ce soit avec votre conjoint ou avec une amie. Et prenez le même verset. Et le soir, faites un débriefing avec cette personne-là. Vous allez voir, il y a des choses qui vont se passer. Vous êtes en train de mettre en pratique la parole de Dieu. Il y a des jours, ça va être ordinaire, où il n'y aura pas vraiment quelque chose. Mais vous allez voir, au fur et à mesure, il y a un lien qui va se tisser avec Jésus qui va être. Vous allez voir, il y a quelque chose qui va se passer là que je ne peux pas vous expliquer. Je vous demande de me croire. Je vous demande d'avoir la foi. Mais je vous suggère fortement, si vous pouvez le faire avec quelqu'un. Versets 11 et 12. Par la foi, Sarah, elle aussi, qui était stérile, a été rendue capable de devenir mère, alors qu'elle en avait depuis longtemps dépassé l'âge. En effet, elle était convaincue que celui qui avait fait la promesse est digne de confiance. Alors, remarquez que sa foi ici, elle est dans le fait que Dieu y est digne de confiance. Pas dans le fait qu'il peut tout, mais dans le fait qu'il est digne de confiance puis qu'il trouverait un moyen d'honorer sa parole. Parce que Dieu tient parole. Puis ça, elle en était convaincue. Mais il y a un petit bémol, Sarah. Il y a un petit bémol. Pas Sarah là, Sarah. Il y a un petit bémol. Sarah là, quand elle a eu la promesse, elle était déjà âgée de 75 ans. Je ne sais pas si vous avez déjà eu connaissance qu'une femme de 75 ans a eu un enfant. Elle, elle a quand même, elle a eu la promesse, puis remarquez qu'elle a quand même essayé d'aider Dieu à tenir sa promesse en s'auto-exaucant. C'est un nouveau mot. Il devrait faire partie, il devrait être dans le dictionnaire dans pas grand temps. L'auto-exaucement. Puis pourquoi il devrait être dans le dictionnaire avant longtemps? Parce que vous savez, les mots dans le dictionnaire, ils sont là par l'usage. Et l'auto-exaucement, c'est quelque chose qui est pratiqué en quantité. Quand elle a donné sa servante à son mari, elle voulait aider Dieu à tenir sa promesse. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce que ça a créé? Elle a créé une rivalité sanglante qui dure jusqu'à aujourd'hui entre deux nations, les Juifs et les Arabes. Attention de bousculer les événements selon notre programme pour accélérer une bénédiction. Versets 13 à 16, c'est dans la foi que tous ces gens sont morts sans avoir reçu ce qui leur avait été promis. Mais ils l'ont vu et salué de loin, et ils ont reconnu qu'ils étaient eux-mêmes étrangers et voyageurs sur la terre. Ici-bas, on est des étrangers et des voyageurs sur une terre qui n'est pas la nôtre. Puis si c'est vrai qu'on a la citoyenneté céleste, il n'en reste pas moins qu'ici-bas, on est des voyageurs dans un pays qui est hostile à nos valeurs. Puis cette terre-ci, elle est de plus en plus hostile aux croyants. Pourquoi? Parce que le prince de ce monde, il veut régner en roi et maître sur tous ceux qui y passent. Puis il va tout faire pour nous soumettre à son règne. Puis c'est rien que par la foi qu'on va arriver à traverser ce pays-là sans devoir adopter cette citoyenneté terrestre-là. Il faut comprendre que notre passage sur la terre, ça reste un voyage en pays étranger, puis qu'on n'y est pas les bienvenus. Sauf si on se tait et on se rend invisible. Les croyants dérangent l'évolution des nouvelles idéologies. Ici, c'est facile de parler de la légalisation du pot, des droits des gays, entre autres. Mais vous savez, pour le monde, Dieu y est dépassé, puis ses lois aussi, et ses adeptes aussi, ses disciples. On n'en veut pas. Pas plus que v'là 2000 ans. C'est pour ça que Pierre va dire dans son épître, la première épître, chapitre 4, verset 12, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. » Soyez pas surpris. Je continue, verset 15, « Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils recherchent une patrie. En effet, s'ils avaient eu la nostalgie de celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. » Puis ça, c'est peut-être un piège qui nous a effleuré l'esprit à un moment ou à un autre, de retourner en arrière. Il me semble que les choses étaient moins compliquées, notre vie d'avant. Il me semble que mes désirs étaient satisfaits beaucoup plus rapidement. La nostalgie du passé. Vous savez, quand on regarde en arrière, là, je vais vous dire une vérité que vous ne savez peut-être pas. quand on regarde en arrière, on ne regarde pas en avant. Quand même. C'est une vérité. Puis vous savez, Jésus, il se trouve à l'avant du peloton. Si vous regardez en arrière, vous ne le verrez pas. Versets 17 à 19. Par la foi, Abraham a offert Isaac en sacrifice lorsque Dieu l'a mis à l'épreuve. Oui, il était en train d'offrir son fils unique, lui qui eut la promesse, et à qui Dieu avait dit, « C'est par Isaac que tu auras une descendance. » Dieu estimait-il être assez puissant pour ressusciter un mort. Et son fils lui a été rendu. C'est une préfiguration. Abraham y a obéi à l'ordre étonnant de Dieu de sacrifier son fils unique. Il a obéi pourquoi? Parce qu'il savait qui était Dieu. Il le connaissait. Il avait confiance en Dieu qui peut tout. C'est ce qu'il dit. Dieu, estimait-il, est assez puissant pour ressusciter un mort. Dieu, il peut faire des choses scientifiquement inexplicables s'il le veut. Puis s'il décide de bousculer la normalité des choses, qu'est-ce qui l'en empêche? Absolument rien. Dieu, il est souverain sur tout, absolument tout, que ce soit la nature, la cécité, la lèpre. Il décide ce qu'il veut des gens comme des choses. Sa souveraineté, elle est entière. Bémol ici. C'est pas parce que Dieu peut tout qu'il va nécessairement faire un miracle en réponse à notre foi. Abraham, il a appris à voir ses circonstances avec le caractère de Dieu comme cadre de référence. Et non, considérer le caractère de Dieu à partir de ses propres circonstances. Autrement dit, soumettre ses circonstances à Dieu au lieu de soumettre Dieu à ses circonstances. C'est ça la foi. Versets 20-21. Par la foi, Isaac a béni Jacob et Ésaü en vue de l'avenir. Par la foi, Jacob a béni peu avant sa mort chacun des fils de Joseph et s'est prosterné pour adorer Dieu en prenant appui sur l'extrémité de son bâton. Ici, c'est intéressant de voir l'adoration dans un chapitre de la foi. C'est intéressant, mais pour cause. La foi, voyez-vous, elle augmente sa force dans la marche avec Dieu, on l'a vu. Mais la marche avec Dieu, ça inclut nécessairement l'adoration. Sinon, ça équivaut à rester un enfant dans la foi. L'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il fait que demander. Puis on dirait que plus il vieillit, l'enfant, là, quand il devient ado, là, on dirait qu'il demande encore plus. C'est des choses plus grandes. Puis, ouais, comment ça donc? Puis j'aimerais faire un petit détour ici pour parler du psaume 103. J'aimerais vous parler de grammaire parce que j'ai un petit arrière-plan de traduction. J'aimerais vous faire remarquer la grammaire du verset 1. Le verset commence en disant « Bénis Dieu, ô mon âme ». Le mot employé ici là, pour « béni », c'est un impératif, c'est pas un constat. C'est pas « mon âme, elle bénit l'Éternel ». C'est pas ça, c'est un ordre ici, c'est un impératif. Le psalmiste ici, il est en train de donner un ordre à son âme. C'est intéressant, hein? Autrement dit, ce que ça veut dire, c'est qu'on a le dernier mot sur tout notre corps. On peut lui ordonner de bénir Dieu plutôt que de douter de lui. On peut lui ordonner de croire Dieu plutôt que nos émotions. On peut lui ordonner de croire Dieu plutôt que nos circonstances. Excusez. Je vais au verset 23. Par la foi, Moïse, après sa naissance, a été tenu caché pendant 3 mois par ses parents, car en voyant combien cet enfant était beau, ils ne se sont pas laissés intimider par le décret du roi. le décret du roi qui était de jeter dans le fleuve tous les garçons nouveau-nés, puis laisser vivre les filles. C'était ça, le décret. Et ici, j'aimerais en profiter pour parler de Daniel. Daniel, il a fait une chose remarquable en ce sens-là. Il y avait, je vous fais un petit topo rapidement, il y avait un édit du roi qui mentionnait que quiconque ferait une prière à quelque dieu ou homme que ce soit dans les 30 prochains jours, il devrait être jeté dans la fosse aux lions. Daniel, à ce moment-là, lui, il avait une habitude. C'était de prier 3 fois par jour à genoux, avec la fenêtre ouverte vers Jérusalem. Comment est-ce que Daniel a réagi à ce décret-là? Il a changé absolument rien. Rien à son habitude. 3 fois par jour, il a continué à se mettre à genoux, puis à prier, puis à louer son Dieu. Il a continué à le faire comme avant. Puis il ne l'a pas fait en se cachant, il a encore ouvert les fenêtres. Qu'est-ce qu'il a eu comme récompense? La fosse aux lions. Mais en bout de ligne, on le sait, Dieu s'est servi de cette fosse-là pour donner gloire à son nom. Parce qu'on le sait, Daniel a été épargné des crocs des lions, alors que ceux qui l'avaient dénoncé, ils ont fini broyés par les lions. Mais non seulement cela, mais le roi, qui n'était pas juif, a fait un autre décret qui disait « Dans toute l'étendue de mon royaume, je décrète qu'on tremble de crainte devant le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant qui subsiste éternellement. Son règne ne sera jamais détruit. Sa souveraineté durera à toujours. Il délivre et il sauve et il accomplit des prodiges, des signes extraordinaires dans le ciel et sur la terre, car il a délivré Daniel de la griffe des lions. » Le roi qui n'était pas juif, il a fait ce décret-là suite à la fosse aux lions. Wow! Craindre Dieu plus que les hommes, c'est ça la foi. Mais je le répète, c'est pas parce que Dieu peut tout qu'il va faire un miracle en réponse à la foi. Versets 24 à 26. Par la foi, Moïse, devenu adulte, a refusé d'être reconnu comme le fils de la fille du Pharaon. Il a choisi de prendre part aux souffrances du peuple de Dieu plutôt que de jouir momentanément d'une vie dans le péché. Car, estimait-il, subir l'humiliation que le Christ devait connaître constituait une richesse bien supérieure au trésor de l'Égypte. Il avait, en effet, les yeux fixés sur la récompense à venir. Là, ici, il est en train de faire référence au chapitre précédent. Tu sais, quand on a parlé tout à l'heure de qu'il se savait en possession de richesses plus précieuses et éternelles, il fait une référence à ça ici. Et il se sert de Moïse, de leur Moïse. Vous savez, Jésus, il accepte d'être sacré roi par ceux qui cherchent, qui veulent de lui comme Seigneur et non comme pourvoyeur. Par ceux qui cherchent les biens spirituels et non les biens matériels. La marche avec Dieu comporte des richesses que le monde ne pourra jamais contenir. Puis une de celles-là, c'est la paix avec Dieu. La paix du cœur. Comme Paul dit dans Philippiens 4:7, c'est la paix de Dieu qui surpasse tout ce que l'on peut comprendre. Vous ne pourrez pas la comprendre. Essayez pas. Mais c'est cette paix-là va garder vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Puis c'est fréquent de voir dans le monde des gens qui sont riches matériellement, puis ils n'ont pas de paix nulle part où ils vont. Puis même au point de s'enlever la vie. Pourtant, ils sont très riches. Parce que la vraie richesse, là, c'est la proximité avec Dieu. Et c'est pour ça que le psaume 84:10, comme le chant le disait tout à l'heure, « Un jour dans tes parvis vaut bien mieux que 1000 ailleurs, plutôt rester sur le seuil de la maison de mon Dieu que de demeurer sous les tentes des méchants. » Verset 27, « Par la foi, Moïse a quitté l'Égypte sans craindre la fureur du roi et il est resté ferme en homme qui voit le Dieu invisible. » La foi, elle voit le Dieu invisible. Le monde ne le voit pas. Parce qu'eux autres, ce qu'ils appellent foi, c'est du toc. C'est une imitation ratée de la vraie foi. Et Moïse y avait vu le Dieu invisible, savez-vous où? Au désert. C'est là qu'il a appris à connaître Dieu. Alors qu'il essayait de repousser la tâche que Dieu voulait lui confier, il s'en sentait incapable. Puis entre vous puis moi, là, je me demande qui s'en serait senti capable. Mais il a argumenté avec Dieu. Il a invoqué toutes sortes de raisons. En premier, il dit, « Qui suis-je? » Non, non. « Oui, mais s'il me demande ton nom. Ben, »« Oui, mais s'il ne me croit pas. »« Oui, mais s'il ne m'écoute pas. »« Oui, mais je n'ai pas la parole facile. » « Ah, envoie qui tu voudras. » Il a argumenté. À chaque fois, Dieu lui a trouvé une réponse. Dieu pourvoyait. Non, il ne voulait pas. Mais finalement, il l'a fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre le temps où Moïse a argumenté avec Dieu au désert puis le temps où il a quitté l'Égypte sans craindre la fureur du roi? C'est écrit qu'il était ferme. D'où c'est que ça y est venu, cette fermeté-là? Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Les 10 plaies. Ce temps d'épreuve-là, ça a servi à démontrer la grandeur et la puissance de Dieu sur la nature, mais sur l'homme aussi. Parce que malgré la puissance que le Pharaon y pensait avoir, Dieu l'était davantage, puis il lui a démontré. Après les 10 plaies, Moïse y a réalisé qui était Dieu, puis il a réalisé que maintenant, sa volonté serait faite, peu importe les embûches posées par l'homme. Il savait maintenant que son Dieu il était plus grand que n'importe qui ou n'importe quoi à cause des 10 plaies. La suite des événements, ça révèle que Dieu y a tenu promesse puis il a soutenu Moïse à travers la tâche gigantesque qu'il l'avait appelé à faire. Mais il a fallu un premier tête-à-tête avec Dieu pour commencer l'œuvre divine. Puis toute œuvre de foi, petite ou grande, ça nécessite ce tête-à-tête-là avec Dieu. Dieu va se charger du reste. Mais tant que vous allez avoir ce tête-à-tête en tête, vous allez avoir la force d'avancer. Verset 28. Par la foi, il a célébré la Pâque, a fait répandre du sang sur les portes pour que l'ange exterminateur ne touche pas les fils aînés des Israélites. Dieu avait donné ses instructions. Puis ne pas les suivre, c'était d'envoyer son premier-né à la mort. Quand Dieu donne une instruction, vous savez, ce n'est pas un jeu. Puis l'obéissance, c'est la grâce qui est prévue par Dieu pour éviter de grandes douleurs. Verset 29. Par la foi, les Israélites ont traversé la mer Rouge comme une terre sèche, alors que les Égyptiens, qui ont essayé d'en faire autant, ont été engloutis. La foi de traverser la mer Rouge, là, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que ça venait de ce qui venait de vivre la Pâque. Ils avaient écouté les instructions de Dieu et leur premier-né a été épargné. Et c'était quand même assez récent. Alors, je vous suggère que la foi nécessaire pour traverser la mer Rouge, ça venait probablement de là. Et j'aimerais vous suggérer aussi la foi communautaire. Dans cette situation précise-là, il y en a peut-être qui n'osaient pas s'aventurer dans la mer Rouge. Mais je me demande si les uns les autres ne se sont pas parlé pour se dire, « Ben non, regarde ce qui s'est passé à la Pâque. Regarde, Dieu, il nous a préservés, il nous a protégés. Il va le faire encore, ça vient de lui, l'instruction vient de lui. Il tient promesse, il va le faire. » Et vous savez, la foi communautaire, c'était un concept qui était très, très présent dans les débuts de l'Église. Ils mettaient tous leurs biens en commun, ils priaient en commun, ils prenaient leur repas en commun. C'était quelque chose qui était fréquent. Aujourd'hui, nous, on est dans une ère d'individualisme. C'est probablement à notre grand désavantage. L'Église en souffre. Et pourquoi l'Église en souffre? Vous vous souvenez du bouclier dont j'ai parlé tout à l'heure? Moi, j'ai un bouclier. Ma sœur ici a un bouclier. Mon autre sœur a un autre bouclier. Mais quand tous les boucliers sont ensemble, je ne sais pas si vous avez déjà lu Astérix, là, mais ça fait en sorte que les boucliers sont sur tout bord, tout côté. Il n'y a à peu près rien qui peut nous toucher. Vous savez, ça me fait penser à l'histoire du paralytique. Le paralytique a été porté par des hommes sur un brancard. Et Jésus, il a dit, c'est-à-dire, il est écrit, « Lorsque Jésus vit quelle foi ces hommes avaient en lui. » C'est pas la foi du paralytique ici qui est montrée du doigt. C'est la foi de ceux qui le portaient. Puis, il croyait tellement qu'ils ont même été jusqu'à briser le toit. Briser un toit pour se faire voir de Jésus. Parce qu'à ce moment-là, Jésus, il était en pleine discussion, probablement théologique, avec les scribes et les pharisiens. Mais eux autres, les porteurs, ils n'avaient rien à cirer. Tout ce qu'ils voulaient, c'était se faire voir de Jésus. Puis Jésus, il s'est honoré une fois comme ça. Ce que ça me dit, moi, c'est que lorsque deux, trois ou plusieurs croyants unissent leur foi dans un même but, l'Église, ça devient un incubateur idéal pour voir Dieu agir au-delà de tout ce qu'on peut penser. Verset 30. Par la foi, les murailles de Jéricho se sont écroulées quand le peuple en eut fait le tour pendant 7 jours. C'est Dieu qui a fait tomber les murailles, ça on s'entend là-dessus. Ce n'est pas les Israélites. Mais Dieu, il l'a fait en rémunération à leur obéissance. Vous vous souvenez le verset tout à l'heure? Il est le rémunérateur de ceux qu'il cherche. L'obéissance demandée, là, était étrange. Faire le tour de la ville pendant 6 jours, puis le 7e jour, 7 fois. Là, on n'oubliera pas une chose. Les hommes, là, c'était des soldats, ça, là. C'était pas des preneurs de marche, là. OK? Puis il n'y a rien, mais absolument rien qui garantissait que les gens de Jéricho, là, ils n'allaient pas tirer des flèches pendant leur balade. La crainte, elle devait être grande. Je ne sais pas, là. Mais c'est normal. C'est normal d'éprouver de la crainte, même quand on obéit à la parole de Dieu. C'est normal. Mais la grande leçon, c'est que Dieu ne leur a pas demandé de comprendre, il leur a demandé d'obéir. Dieu n'a pas expliqué son plan. Puis en passant, avant la bataille, Josué, lui aussi, a rencontré Dieu. C'est écrit, c'est le chef de l'armée de l'Éternel, probablement le Seigneur en personne. Josué s'est prosterné devant lui et lui a demandé c'était quoi ses instructions. La suite, on la connaît toutes. Jéricho est tombé aux mains du peuple qui a obéi aux instructions données par Dieu. Puis Dieu a fait éclater sa gloire. Verset 31. Par la foi, Rahab, la prostituée, n'est pas morte avec ceux qui avaient refusé d'obéir à Dieu parce qu'elle avait accueilli avec bienveillance les Israélites envoyés en éclaireur. Rahab, elle avait seulement entendu parler des Israélites et de leur Dieu. Elle l'a, pour ainsi dire, rencontré à distance. Regardez ce qui est écrit. Dans Josué, au chapitre 2, les versets 9 à 11, ça dit, et là c'est Rahab qui parle, « Je sais que l'Éternel vous a donné ce pays. On a entendu que l'Éternel a mis à sec la mer Rouge. On a appris comment vous avez traité les deux rois des Amoréens. Depuis qu'on a entendu ces nouvelles-là, le cœur nous manque, personne n'a plus le courage de vous tenir tête. » Elle avait seulement entendu. Elle n'avait rien vu de ces choses-là. Rien. Mais ça a suffi pour qu'elle pose une action en conséquence de ce qu'elle savait. De fait, elle a complètement ignoré les ordres de son peuple. Puis en passant, Rahab, là, c'est une prostituée. Mais elle va quand même faire partie de la généalogie de Jésus. Rien de moins. Pourquoi? Parce que Dieu, là, il n'a pas honte de ceux qui prennent position pour lui, peu importe leur passé. Puis Rahab, elle est devenue rien de moins que la mère de Boaz, celui qui a épousé Ruth. Rahab, c'était une non-juive. Je ne sais pas, mais est-ce que ça a eu une influence sur le fait que Boaz a pris une non-juive comme épouse? Ruth, c'était une non-juive.
Je ne sais pas. Je pose la question. Puis je ne donnerai pas la réponse. Je ne l'ai pas. Verset 32-34. Que dirais-je encore? Le temps me manquerait si je voulais parler en détail de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephté, de David, de Samuel et des prophètes. Grâce à la foi, ils ont conquis des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation de promesses, fermé la gueule des lions. Ils ont éteint des feux violents, échappé aux tranchants de l'épée. Ils ont été remplis de force alors qu'ils étaient faibles. Ils se sont montrés vaillants dans les batailles. Ils ont mis en fuite des armées ennemies. Des femmes ont vu leur mort ressusciter pour leur être rendue. Versets 35 à 38. C'est des belles choses qu'ils ont fait ici, ceux qui ont eu la foi. Versets 35 à 38. D'autres, en revanche, ont été torturés. Ils ont refusé d'être délivrés afin d'obtenir ce qui est meilleur, la résurrection. D'autres encore ont enduré les moqueries, le fouet, ainsi que les chaînes et la prison. Certains ont été tués à coups de pierre. D'autres ont été torturés, sciés en deux ou mis à mort par l'épée. D'autres ont mené une vie errante, vêtus de peau de mouton ou de chèvre, dénués de tout, persécutés et maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Ils ont erré dans les déserts et sur les montagnes, vivant dans les cavernes et les antres de la terre, eux dont le monde n'était pas digne. Je vous pose la question. Pas cette question-là. Est-ce que c'est une foi qui en vaut la peine? Torturé, moqué, fouetté, emprisonné. Là, il fait référence ici encore au chapitre précédent. Vous avez enduré les souffrances d'un rude combat. On en a parlé tout à l'heure. C'est de ça qu'il fait référence ici. Vous savez, en Occident, de nos jours, la foi va rarement conduire à la mort. Au pire, peut-être à des moqueries, comme on l'a déjà mentionné. Dans notre conception nord-américaine, la foi, il faut que ça nous permette de vivre une vie douce et tranquille. Mais la Bible a fait un constat complètement à l'opposé. Tous ceux qui sont décidés à vivre dans la piété par leur union avec Jésus-Christ connaîtront la persécution. Puis des fois, cette persécution-là, elle va même venir de notre propre foyer. Je fais une pause ici pour dire que la foi, ce n'est pas une assurance tout risque. Il se peut que malgré notre foi, on fasse face à un congédiement, à une rupture, à un décès, une maladie incurable, une faillite. La foi, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de souffrance physique sur la terre. On est soumis aux mêmes limites et souffrances que n'importe qui, croyant ou non. La foi, ce n'est pas une assurance tout risque, je le répète. Puis des fois, on n'aura pas, souvent même, on n'aura pas l'explication sur le pourquoi de notre situation. Puis à cause de ça, il y en a qui vont remettre en question la réalité de la foi ou ses mérites. Vous savez, les tempêtes de la vie, là, c'est ça qui vient tester la force de notre ancre. Verset 39, « Dieu a approuvé tous ces gens à cause de leur foi. Et pourtant, aucun d'eux n'a reçu ce qu'il leur avait promis. » L'approbation de Dieu, ce n'est pas nécessairement lié à une réponse de Dieu qui soit selon nos désirs, mais bien à l'exercice de la foi. Le verset, il est clair là-dessus. Attention à notre façon d'interpréter la réponse à nos requêtes selon le plan que nous, on s'est forgé. Voilà ce qu'a révélé le rapide regard sur les héros de la foi, des gens ordinaires, comme vous et moi. Chacun a son histoire, à sa façon, dans son histoire personnelle, a exercé la foi puis a été approuvé de Dieu. Pourquoi? Parce que la foi, ce n'est pas réservé à une élite. Par ailleurs, il y en a beaucoup qui ont perdu quelque chose. Abel a perdu la vie. Abraham a perdu une patrie. Moïse a perdu un avenir prometteur. Puis, j'en doute même pas, au cours de notre voyage là, sur la terre, on va perdre des choses. Si parmi tout ça, Il restait seulement que Jésus, la paix du cœur serait complète. Paul va dire dans Philippiens 3:8, « Je considère toute chose, comme une perte à cause de ce bien suprême, soit la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. » Maintenant, qu'est-ce que ces héros-là ont à voir avec mon ici et mon maintenant? En quoi est-ce qu'ils ont vécu il y a 2000 ans? Ça m'est utile à moi aujourd'hui en 2017? Et c'est là qu'on en arrive au chapitre 12, qui selon moi est le chapitre auquel on voulait arriver dans l'Épître aux Hébreux. Le verset 1. C'est pourquoi nous aussi qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Ces gens-là dont on vient de parler, c'est nos ancêtres, c'est nos prédécesseurs. Ces gens-là qui ont été approuvés de Dieu à cause de leur foi, c'est notre généalogie spirituelle. On est dans leur lignée. Ils nous ont montré la voie. Maintenant, c'est à notre tour à cultiver la foi puis à l'exercer. Le chemin ne sera pas facile. Mais on est avisé que la course doit se faire avec endurance. Il fait encore référence au chapitre précédent, quand il disait « il vous faut de la persévérance ». Puis pourquoi avec endurance? Parce qu'on va avoir de la misère à se débarrasser de certains fardeaux. Et puis du péché. Il y en a là qui vont tellement s'accrocher à nous autres, là, qui vont faire en sorte que notre course, ça va devenir une marche, parce que le poids va être trop grand. Mais le verset 2, gardons les yeux fixés sur Jésus, qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Voilà le point central de toute l'Épître. C'est à ça que l'auteur voulait en venir. Au début, il est parti en disant que Jésus est supérieur à tout. Après ça, il a démontré en quoi Jésus était supérieur à tout. Qu'il nous a acquis le salut, qu'il nous a acquis la vie éternelle. Et là, maintenant, il démontre qu'il faut vivre par la foi. Il donne des exemples concrets de la foi. Et maintenant, sa conclusion, gardez les yeux fixés sur Jésus. C'est lui qui suscite la foi. C'est lui qui la fait grandir. Quand nos regards sont fixés sur Jésus et sur tout ce qu'on a en lui, on peut alors les détacher de nos biens terrestres. En conclusion, la condition non négociable à la foi, c'est la proximité avec Jésus, parce que c'est lui qui la suscite. Vous savez, Jésus a accompli de grandes choses, mais aux yeux humains, il a lamentablement échoué parce qu'il a fini exposé sur une croix, pareil comme un criminel. Puis si la pensée de Dieu ne nous avait pas été révélée, c'est la conclusion qu'on tirerait. Mais si on tire les rideaux du ciel, on comprend qu'il en est tout autrement. Puis on comprend que sa victoire sur la mort, ça a été la plus grande œuvre jamais accomplie. C'est ça qu'a fait la foi, attire les rideaux du ciel, attire sa sève de la proximité avec Jésus. Plus on s'approche de lui, plus notre foi se gonfle, et souvent à notre insu. Plus on va l'aimer, plus la foi va être grande. Plus vos yeux seront détachés de vous, et fixé sur Jésus, plus votre foi grandira. Plus il va prendre de place dans vos affections et vos choix, plus votre foi grandira. Jésus lui-même, au moment de son épreuve ultime, il a dit, « Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois, que les choses se passent non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu le veux. » Puis une deuxième fois, il va dire, « Ô mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe soit épargnée, s'il faut que je la boive, alors que ta volonté soit faite. » Et pour la troisième fois, il pria en répétant les mêmes paroles. Est-ce que Dieu a acquiescé à sa demande? Non. C'était pourtant son propre fils. La foi dont Jésus a fait preuve, ça a été de dire que ta volonté soit faite, tout en croyant en l'amour de son Père. Mais voilà où bien des gens délaissent la foi. Elle ne déplace pas les montagnes qu'on voudrait. La foi, ça consiste à réviser notre volonté pour la rendre esclave de Dieu. Et croire, et j'insiste là-dessus, et croire que la réponse qu'il donne à nos prières, peu importe ce qu'elle est, ça remet nullement en question son amour pour nous. Le Père a dit, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Est-ce que le Père aimait moins son Fils quand il était sur la croix? Oh que non. Oh que non. Jésus aurait voulu ne pas boire la coupe de colère, mais il a dit toutefois, « Que ta volonté soit faite et non la mienne. » Comment il a pu faire une telle affirmation? Parce que quand vous vous savez aimer du Père, comme le Père aimait le Fils, et vice-versa, il va de soi de lui accorder toute votre confiance. Gardez les yeux fixés sur Jésus, le chef de la foi. Lui, mieux que quiconque, va savoir vous montrer l'amour du Père. Vous savez, de tout temps, le défi de la foi, ça consiste à croire en la capacité de Dieu d'assumer le rôle de leader plutôt qu'en notre capacité de suivre. Et ainsi, on comprend un peu mieux la question que Jésus pose en Luc 18. Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la vraie foi sur la terre? Voilà. Si vous voulez, on va prier juste pour terminer. Père céleste, il y a un temps béni qui nous a été donné aujourd'hui pour parler de cette foi si nécessaire à nos ancêtres spirituels. À travers les siècles qui ont suivi, ça s'avérait être la force qui a valu aux croyants de soutenir des combats douloureux et de brandir le nom de Jésus bien haut. Pour nous, aujourd'hui, qui vivons en Occident, on a bien besoin également de cette foi si précieuse. Parce que les épreuves, bien que différentes de celles de nos frères et sœurs d'autres pays, en restent pas moins des incitatifs à lâcher prise. Que ces propos que tu nous as adressés ce matin trouvent écho en nous et augmentent notre désir de te soumettre nos combats encore davantage, dans une confiance absolue, parce que tu nous as aimés, toi le premier. Que la lecture et la parole, la pratique de la parole divine, nous ouvrent davantage les yeux sur l'amour incompréhensible que tu as eu pour nous à travers la croix, et puis qu'en réponse à cette œuvre d'obéissance du Fils, notre foi soit excitée à fixer les yeux sur lui et sur lui seul. Amen.